בסייעתא דשמיא, מסכת גיטין, דף מ"ח, נקומה שמאלה דיזיימא לין, תשמא, קונה אילן וקרקעו. לגמרא נוזא רפורטי, דן לו עמוד פרסדן, דו מחלוקתות אנטרו רבי יוחנן ריש לקיש. קונסרנן, המוכר שדהו לפירות, הנום קיוון, סון שאן, מפא, לגוף, דיר לשאן לומם, mais la production de ce champ. C'est ce qu'on appelle mocher sadeu les perotes. Donc il n'y a qu'un kinyan perotes de fruits. Rabbi Yochanan pense que malgré tout, il pourra apporter des bikurim et lire aussi le passage, le psukim de la Torah, et dire « Je t'ai apporté des fruits de la terre asher natatali que tu m'as donné. » Puisque celui qui a acheté les fruits a acheté aussi le gouffre du karka. Et Resh Lakish dit que non. Mais vive et enokore. Il ne pourra pas lire puisque le terrain ne lui appartient pas. Il a simplement acheté la production du terrain, les fruits, mais pas le terrain lui-même. C'est une première marloquette. Et comme Rachid avait expliqué, cette marloquette, c'est à l'époque où il n'y a pas de yovel. Lorsqu'il n'y a pas de yovel, les terrains ne sont pas rendus à leur propriétaire au bout de 50 ans. Donc lorsqu'on achète théoriquement un terrain, on l'a acheté pour toute la vie et donc on a un kinyan du gouffre. Lorsqu'on l'a vendu juste pour les fruits, là c'est la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Mais lorsque le yovel était appliqué et donc au bout de 50 ans on rendait les terrains, même lorsqu'on achète un terrain, puisqu'on l'achète, le terrain lui-même, que pour 50 ans, on n'a pas acheté le gouffre lui-même, mais seulement les fruits. Et là encore, on retrouve la même marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, est-ce qu'on doit lire ou pas, est-ce qu'on peut lire ou pas, puisque le kinyan n'est qu'un kinyan de fruits, puisqu'on n'a pas acquis le terrain. Et donc la Gemara va nous apporter des preuves. Tashma, akone ilan vekarkao, c'est marqué celui qui achète un arbre et son karka, et son terrain, mais vive et koré, il pourra apporter des bikurim et il pourra lire. Donc il devra apporter des bikurim et il lira. De là, nous voyons, puisque certainement qu'on parle même à l'époque où le yovel était appliqué, que lorsqu'on achète un arbre et le terrain de cet arbre, donc on a acheté un terrain, on a acheté la terre elle-même, donc pas seulement les perotes. Donc c'est une question contre Resh Lakish, puisqu'on voit que Mevi et Koré, que le terrain lui appartient aussi. L'agma en réponse n'est pas une question à Fabi Maskinan, Bisman, Shana, Yovel, Noeg. Là, on parle à l'époque où il n'y avait pas de yovel, et donc c'est vrai que lorsqu'on achetait à cette époque le terrain, on avait acheté un kinyan dans le gouffre du terrain. Tashma Lagma nous apporte une autre preuve. Akonish Neilanot Betor Sadeu Shel Chavero. Si un homme achète deux arbres dans le champ de son prochain, quel est le digne de deux arbres? Mevi Venokore. Puisqu'on considère que lorsqu'il a acheté les deux arbres, il n'a pas acheté le terrain qui se trouve sous les arbres et entre les arbres. Donc il n'est pas propriétaire du terrain, juste des arbres. Donc lorsqu'il apportera les prémices, les bikurim, il ne pourra pas dire la terre que tu m'as donnée puisqu'il n'a pas de terre. Mais on peut déduire à Shlosham et Vivekore que s'il a acheté trois arbres, là, comme la Gemara l'explique dans Maseret Baba Vatra, que Rashi nous rapporte, il a acquis pas seulement les arbres, mais aussi le terrain qui se trouve sous ces arbres, la terre sous ces arbres, et entre ces arbres et autour de ces arbres, pour pouvoir récupérer les fruits de cet arbre. De César. Donc nous voyons là que lorsqu'il y a trois arbres, il a acquis le terrain. Donc on comprend même à l'époque où il y avait le yovel. Donc lorsqu'on achète un terrain, on achète aussi pas seulement donc la production, mais le gouffre du terrain. Lorsque, dans ce cas-là, Shlosha, il a acheté trois arbres, c'est vrai qu'il n'a pas précisé le terrain. Mais les Chachamim m'ont dit trois arbres, il a aussi le terrain. Donc il a acheté le terrain, et on voit qu'il peut lire, donc c'est la preuve qu'il a acheté le gouffre du karka, et l'agma répond, là aussi ce n'est pas une question contre Resh Lakish, on parle à l'époque où il n'y avait pas de yovel, et donc c'est vrai qu'à cette époque-là, lorsqu'on a acheté un terrain, on a tout acheté, même le gouffre. Juste pour préciser que l'époque où il n'y avait pas de yovel, c'était par exemple à l'époque du deuxième Beth Amikdash, où les Bnei Israël n'étaient pas en majorité, donc, la majorité du clan Israël ne se trouvait pas sur la terre d'Israël, et donc il n'y avait pas de yovel. Rachta d'Amar Rav Frisda, l'Agma poursuit, et maintenant que Rav Frisda nous a enseigné que Machloket Biyovel Sheni, que la machloket entre Reish Lakish et Rabbi Yochanan, c'est seulement à partir du deuxième Yovel que les Bnei Israël ont compté. Où là, comme l'explique Rashi, les Bnei Israël s'étaient habitués dès le premier Yovel à rendre les terrains. Là, Reish Lakish nous dit que lorsqu'un homme a acheté un terrain, il n'a pas acheté le karka, puisqu'il sait très bien qu'il va le rendre. Mais à l'époque du premier Yovel, Aval de Yovel Rishon, c'est-à-dire la première fois que les Bnei Israël devaient appliquer le Yovel, d'ivrei Hakol, d'après tout le monde, Mevi, même d'après Reish Lakish, il apporte les Bikurim Vekoré. Et il lira. Puisque Beyovel Rishon, les gens ne pensaient pas encore, n'avaient pas encore vu en application cette halakha qu'il fallait rendre les terrains. Et donc, d'ivrei Hakol, Mevi Vekoré, il a acquis le terrain dans sa tête, même le terrain même. Et donc là, il n'y a pas de machloket, comme dit l'agma d'Akate, le satach no samar datayu, puisque à ce moment-là, le samar datayu, il ne pensait pas encore qu'il devait rendre le terrain, il n'avait pas encore vu une telle chose, qu'on achète un terrain, on doit le rendre au bout de 50 ans. Donc, puisque même d'après Reish Lakish, nous dit Rav Frisda, il y a une différence entre le premier Yovel et le deuxième Yovel, si c'est ainsi, on peut répondre ces deux braïtot, même à l'époque où il y avait le Yovel, l'okashaha, le Yovel Rishon, le Yovel Sheni. Et ce que nous a dit Reish Lakish, c'était dans le Yovel Sheni, ces deux braïtot, c'est le Yovel Rishon. Alors la Gemara poursuit les maketanae, on n'a qu'à dire que cette machloket, est-ce que Kinyan Perot, c'est Kinyan Agouf ou pas? On n'a qu'à dire c'est la machloket Tanaïm que nous allons voir. Minaim, d'où est-ce qu'on sait le lokar sademe aviv yigdisha? Vachar kar met aviv. Nous avons un din qui est appelé le din du sade achouza, du champ qu'on a reçu en héritage de père en fils depuis l'époque de Yehoshua Binoun. Yehoshua Binoun a partagé la terre d'Israël. Et l'héritage, celui qui recevait une parcelle de terrain, ce terrain s'appelait pour lui Sede Achouza, un champ qu'il a hérité, son héritage. Il y a Sede Mikne, c'est-à-dire un champ qui a été vendu et qui reviendra à son propriétaire au moment du Yovel. La différence entre un Sede Achouza et un Sede Mikna, c'est par exemple dans le din où un homme a offert au Beth Amikdash son champ. Et il ne l'a pas racheté avant le Yovel. Donc il l'a offert au Beth Amikdash, ça appartient au Beth Amikdash. Le Yovel arrive et lui n'a toujours pas racheté du Beth Amikdash. Le Gizbar se retrouve avec un terrain. Le Hikdash n'a pas besoin vraiment de terrain, besoin parfois d'argent. Umacha Gizbar, nous dit Rashi, le Gizbar, le responsable du Hikdash, a vendu le terrain. Il a vendu le terrain à un autre, donc à un autre juif. Et arrive le Yovel. Donc normalement, le terrain doit revenir à son propriétaire. Est-ce que là aussi, le terrain reviendra au propriétaire? Bien, le dîner que ce terrain ne pourra pas être racheté, et lorsqu'il sortira au Yovel de l'acheteur, il ira dans les mains des Kohanim, il sera partagé aux Kohanim. Ça, c'est le dîner du Sadeh Achouza. Le dîner du Sadeh Mikna, si le champ a été acheté, et qu'un homme a été magdish ce champ, et qu'il ne l'a pas racheté jusqu'au Yovel, le Gizbar l'a vendu. Lorsqu'arrive le Yovel, le champ sort des mains de l'acheteur, mais va retrouver les premiers propriétaires qui l'ont vendu au Hekdesh. C'est le din de la Torah et c'est la différence entre un Sede Achouza et un Sede Mikna. Donc Sede Achouza, s'il n'a pas été racheté, il a été vendu par le Gizbar. À le moment du Yovel, c'est les Kohanim qui prendront le terrain. Le premier propriétaire a perdu puisqu'il a été Magdish et il ne l'a pas racheté. Si c'est un Sadeh Mikna et que l'acheteur a offert ce terrain au Beth Amikdash, à ce moment-là, c'est au premier propriétaire que revient le terrain au moment du Yovel. Et là, nous avons une machloket concernant un din très particulier. Un homme qui a acheté un terrain de son père, c'est appelé Sadeh Mikna. Le père décède. Le terrain devient la propriété du fils, il en hérite. Il est l'héritier de ce terrain, ça devient Sede Achouza. Quel va être le din si le fils a offert le terrain au Beth Amikdash, alors que ce terrain était pour lui un Sede Mikna, il l'avait acheté de son père. Et aujourd'hui, après la mort du père, le terrain devient Sede Achouza. Est-ce qu'on donnera au fils le statut de Sede Achouza? Donc s'il ne l'a pas racheté et que le terrain a été vendu au Yovel, le terrain reviendra dans les mains des Kohanim, ou bien c'est le din de Sede Mikna et ça reviendra aux mains du premier propriétaire, donc du père, et le père est décédé, donc c'est le fils qui va en hériter. C'est ce que la Braïta nous dit, Minaim l'éloquer, d'où est-ce qu'on sait que celui qui a acheté, Sadémé à vivre un champ de son père, Vigdisha, il a été Magdish le champ, Vahakar met à vivre et ensuite son père est mort. Minaim j'téléphane à Kisdar Khouza, d'où est-ce qu'on sait que ce champ a le statut d'un cédé à Khouza vis-à-vis du fils. Talmud Lomar, puisque la Torah dit, Imet cédé miknato à Shalom Isdar Khouzato, la Torah dit, si c'est le champ qu'il a acheté, qui n'est pas le champ qu'il a hérité, qu'il a offert à Kadosh Baruch Hu, donc là le champ reviendra au premier propriétaire. Donc on déduit de là que c'est un sadé, pas seulement sadé miknato asher lo misder chuzato, puisque c'est assez étonnant pourquoi la Torah a besoin de préciser un Torah, un terrain qui a été acheté, ce n'est pas un terrain d'héritage. Donc de là, nous explique Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon que ce terrain a été acheté, et c'est un terrain à Sherlo Misder, c'est-à-dire qui ne peut pas devenir un cédé à cousin, un champ d'héritage. Il a été acheté à une autre personne, pas au père. Donc c'est seulement dans le cas de Sadé, Shena, Reuyal, Yot, cédé à cousin, un champ qui ne peut pas être un champ à cousin, ça c'est le champ qui reviendra au premier propriétaire. Miyatstazo, Sherouyal, Yot, cédé à cousin, mais ce champ, puisque le fils l'a acheté au père, lorsque le père décède, le terrain peut revenir au fils, donc il peut en hériter, ça devient cédé à Khouza. Donc ce terrain ne fait pas partie du din de la Torah, que au Yovel, il reviendra au premier propriétaire, mais il a le statut de cédé à Khouza, et donc ça reviendra au Kohanim, divé Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Meir, lui, n'est pas d'accord, il nous dit, Minaim loker cédé me avi vous met avi vachar kachig disha. La nuance entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, c'est à quel moment il a été magdish. Rabbi Yehuda a dit, s'il a acheté de son père, il a été magdish, ensuite le père est mort, là on donnera à ce champ le statut de cédé à Khouza. C'est-à-dire, même dans ce cas-là, où lorsqu'il a été magdish, le champ ne lui appartenait pas encore, le père n'était pas encore mort. Mais Rabbi Meir lui dit, Minaim loker cédé me avi vous met à vivre. D'où est-ce qu'on sait que si un homme a acheté un champ de son père, le père est mort, vachar kachigdisha, et ensuite le fils a été magdish, là d'où est-ce qu'on sait, Minaim shtelefanav kizder chouza, que c'est un champ, kizder chouza, et ça reviendra dans ce cas-là au Kohanim, talumar, et metzede miknato, shalom, misedah chouzato, donc le même pasou, un champ acheté qui n'est pas le champ achouza, et de là, déduit Rabbi Meir, sade shena sede achouza, c'est un champ qui n'est pas maintenant sede achouza, yetztazo shi sede achouza, à l'exception de ce champ, qui c'est vrai était au début sede mikne, mais qui est devenu sede achouza. Donc nous voyons ici que d'après Rabbi Yehuda, si le champ a été donc d'abord acheté du père, il a été magdish et ensuite le père est mort, là le passou vient me dire que c'est un cédé à Khouza. Dans le cas où le champ a été acheté du père, le père est mort, ça devient cédé à Khouza, et ensuite le fils est magdish, là d'après Rabbi Yehuda, il n'est même pas nécessaire d'avoir un passou, c'est évident que c'est décédé à Khouza. D'après Rabbi Meir, c'est le contraire. Le passou, c'est lorsqu'il a hérité le bien et qu'ensuite il a été magdish. Mais s'il a été magdish avant d'hériter le bien, d'après Rabbi Meir, ça reste des miknés. Donc la Gemara nous dit, nous voyons donc, Vilou le Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, que d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, si d'abord le père est mort, met à vivre et ensuite il a été magdish, nous avons vu que dans ce cas-là, l'autre chakra, il n'est pas nécessaire d'un pasouk, c'est sûr que c'est des achouza. Donc la machloquette ici, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est de savoir, un homme qui a acheté un champ, le père est mort, et ensuite, donc le fils qui a hérité ce terrain maintenant, et magdish le terrain, quel est le statut de ce terrain? Donc, Maïlav, n'est-ce pas que Beakam et Filgi, Rabbi Meir, savoir qu'il y a un perot qui a un agouf d'amé. C'est-à-dire que Rabbi Meir qui pense qu'il est nécessaire un pasouk. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir pense que lorsqu'on a acheté les fruits, c'est-à-dire lorsque le fils avait acheté à son père le terrain, il n'avait acheté que les perotes. Pourquoi? Puisque le terrain allait revenir au père au bout de 50 ans. Donc n'est-ce pas que pense Rabbi Meir que Kinyan Perot c'était déjà que Kinyan Agouf, donc le fils avait déjà acquis le Kinyan Agouf. Ou Bemitata Viv ou Deloyarit. Et donc dans ce cas-là, lorsque le père est mort, Deloyarit Volomide, il n'a rien hérité de plus, puisqu'il avait avant, par l'achat Kinyan Perot et Kinyan Agouf, par le décès du père, il a toujours Kinyan Perot et Kinyan Agouf, c'est la même chose. Donc il car met à vivre à kar kachigdisha tsarir kra. C'est pour cela que j'ai besoin d'un pasouk pour dire que c'est vrai qu'il n'a pas plus d'acquisition dans ce champ, mais le champ devient d'un cédé mikni, il prend le statut de cédé à Khouza. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon pensent différemment. C'est vrai que dans le din, ils sont d'accord que c'est aussi un cédé à Rouza. Mais comment on est arrivé à cela? D'après Rabbi Rabbi Shimon, il n'est pas nécessaire d'un pasouk. Pourquoi? Parce que Savri, il pense que Kinyan Perot Lavki Kinyan Agouf. Le fait d'avoir acquis les fruits, c'est-à-dire d'avoir acheté le terrain du père, il n'est pas propriétaire du terrain lui-même, du karka, du gouf, si on peut dire du corps du terrain. Ubeha bemitat aviv, hashtaou de kayaret. Et donc, dans ce cas-là, lorsque le père est décédé, il a acquis maintenant le Kinyan Agouf, puisqu'il devient lui le propriétaire, ben Arben, donc c'est son cédé à Rouza. Donc je n'ai pas besoin d'un pasouk dans ce cas-là que le terrain lui appartient, que c'est cédé à Rouza. Il karmet aviv, achachigdisha l'otrichakra, je n'ai pas besoin d'un pasouk, vechidzerikra, l'igdisha, achachkarmet aviv, vechidzerikra. Et c'est seulement dans le cas où il a d'abord été magdish, ensuite que le père est mort, c'est là où on a besoin d'un pasouk. Donc nous avons, nous dit la Gemara, une machloquette entre Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon contre Rabbi Meir, est-ce que Kinyan Perot et Kinyan Agouf? Mais la Gemara refute, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Leolam Imalecha, je peux te dire que non. Be'alma, ailleurs, de manière générale, Kassavri Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Kinyan Perot et Kinyan Agouf d'Ami. On peut dire que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sont d'accord que partout, Kinyan Perot et Kinyan Agouf, comme le pense d'ailleurs Rabbi Yohanan. Ve'acham, et ici, on va dire que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, pourquoi ils n'ont pas expliqué que le pasouk parle dans le cas où le fils a d'abord hérité, donc il a d'abord eu la mort du père et ensuite il a été magdish? C'est parce que Rabbi Yehuda crache que Chouv et de Rouche. Ils ont trouvé, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, un pasouk, ils ont été d'Oresh. La Torah dit, si c'est son champ qu'il a acquis, le champ qui n'est pas Mizdeh Achuzato. Dirtov, Rachamana, ils avaient dit, Imet Sadeh Miknato, Asher Lo Achuzato. Le pasouk aurait dû dire, c'est le champ qu'il a acquis, qui n'est pas le champ de Achuza, si c'est vraiment comme Rabbi Meir. Que signifie Maï Misede Achuzato? C'est-à-dire, d'un champ Misade, le mot en plus, le même et le Sade Misade Achuzato, vient nous dire que c'est en vérité un Sade Shena Riwi Aliyot Sade Achuzato. C'est-à-dire que le pasouk vient dire plus encore. Même un terrain qui ne deviendra pas demain un Sade Achuza, mais un Sade qui deviendra Yatsado Shiruyad Yotsade Achuza, où là, le pasouk vient l'exclure, il n'a pas le statut de Sade Mikni, Yatsade Achuza. Donc la Gemara conclut ici que ce n'est pas une marloquette Tanaïm, on peut dire que Rabbi de Rabbi Shimon et Rabbi Meir sont tous d'accord, comme Rabbi Yochanan, que Kinyan Perot, que Kinyan Nagouf, et donc celui qui a acheté un terrain pour aller lire les Bikurim, comme Rabbi Yochanan a voulu le dire. Bien que, comme nous verrons, la halakha est comme Rish Lakish. La Gemara termine. Amar Rabbi Yosef nous dit, il avda amar Rabbi Yochanan kinyan perot ki kinyan agouf dame. Rabbi Yosef vient dire que si on suit les différentes positions de Rabbi Yochanan, on peut dire, heureusement que Rabbi Yochanan pense que kinyan perot ki kinyan agouf dame. Pourquoi? Parce que sinon, Rabbi Yochanan ne peut pas trouver ses mains et ses pieds dans le Bet HaMidrash parce qu'il va avoir une question très très forte. Quelle est la question? C'est-à-dire, si on ne dit pas Kinyan Perot et Kinyan Agouf, nous allons avoir un grand problème. Puisque ailleurs, nous connaissons le din de Brera que la Gemara avait rapporté, ce qu'on dit voir à Davar les Mafria sur telle ou telle chose, sur ce qui arrivera par la suite. Donc par exemple, dans le din de deux frères qui ont partagé les biens du père, est-ce qu'on considère qu'il y avait deux terrains? Un frère a pris un terrain, l'autre a pris le deuxième terrain. Quel est le statut de ces terrains? C'est un héritage. Mais est-ce qu'on est sûr que ce terrain appartenait, au moment de la mort du père, ce terrain était pour cet enfant et l'autre pour l'autre enfant? Peut-être que c'était le contraire, que ce terrain était pour lui et l'autre pour le second. Donc comment peut-on dire que ce terrain est pour lui? C'est par le principe de Brera. Ouvrar, Adavar, les Mavrea, puisque c'est le terrain qu'il a pris, donc il s'avère rétroactivement que c'était le terrain qui lui était réservé à la mort du père. Mais Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Rabbi Yochanan pense que les deux frères sont comme des acheteurs, puisque l'un a acheté la part de l'autre contre sa part qu'il a chez l'autre. Puisqu'on ne sait pas quelle est la part de tel ou tel fils dans tel ou tel terrain. Et donc, d'après Rabbi Yochanan, ils vont se rendre au Yovel les terrains, ils vont recommencer le partage comme si c'était les simples acheteurs. Donc, nous dit la Gemara, Ravasi a dit le nom de Rabbi Yochanan, Achim Shechalku, des frères qui ont partagé les Kuchot, ils ont statut d'acheteur, Marzirim Zelazeb Yovel, et ils se rendront le terrain comme s'ils l'avaient acheté, ce n'est pas Sine Achuza. Si Rabbi Yochanan pense ainsi, donc deux frères qui ont hérité un terrain, ne sont pas des héritiers comme c'est-à-dire pour avoir le statut de Sede Achouza. Ils n'ont le statut que d'acheteur. Donc un acheteur jusqu'au Yovel, si on dit que Kinyan Perot n'est pas que Kinyan Agouf, donc deux frères qui ont hérité un terrain du père ou deux terrains du père, ils pourront apporter du coup, ils ne pourront pas dire la terre que tu nous as donnée puisqu'ils n'ont que les Perot. Mais maintenant que Rabbi Yochanan pense que Kinyan Perot que Kinyan Agouf, donc on pourra, même dans ce cas-là, apporter les Bikurim et lire cette partie Admashena Tatini, même s'il y a deux frères. Parce que si Rabbi Yochanan pensait que Kinyan Perot Lav que Kinyan Agouf, la seule possibilité d'apporter des Bikurim et de dire Adama Shana Tatali, c'est seulement s'il y a un fils unique, fils de fils unique, et ainsi de suite, lorsqu'on remonte jusqu'à Yoshua Ben Nun, c'est ce que la Gemara nous dit, Visalkadat Arlav Kinyan Agouf Dame. Si tu penses que, d'après Rabbi Yochanan, si on avait pu dire Kinyan Perot, ce n'est pas Kinyan Agouf, l'homme Ashkachad de Maïté Bikurim et l'Achad Bachad, on ne pourrait trouver qu'on apporte des Bikurim que un fils unique, fils de fils unique, jusqu'à Yoshua Binoun, puisque dès qu'il y a deux enfants, c'est comme des acheteurs. Si deux acheteurs, c'est Kinyan Perot Lav qui Kinyan Agouf. Et donc, il ne peut pas dire Adama Shana Tatali, puisqu'on voit qu'on peut apporter des Bikurim. Donc, heureusement, comme on dit que Rabbi Yochanan pense que Kinyan Perot qui Kinyan Agouf, donc même lorsqu'il y a deux frères ou plusieurs qui se sont partagés, ils pourront apporter des Bikurim. Amar Rava, Rava nous dit. Kra umatnita mesaïle le Resh Lakish. Nous avons un pasouk et une braïta qui va dans le sens de Resh Lakish. Le pasouk kra, puisque c'est marqué bemispar shene tevuot imacher lach. Le pasouk dit, pour le compte de récolte, il te vendra le terrain. Puisque le pasouk nous dit bemispar shene tevuot, donc on est à l'époque du Yovel. La Torah nous dit tant d'années après le Yovel, et la Torah dit l'année des chenets, tes voies des récoltes, donc ce n'est que la récolte qu'on achète et pas le terrain. C'est comme Resh Lakish. Matnita la braïta de Tania Bechor notel pishnaim bezdea choseret la viv beyovel. Le Bechor, qui normalement le premier-né prend une double part de l'héritage, prendra double part même d'un terrain qui revient au père au Yovel, c'est-à-dire un champ qui avait été vendu par le père de son vivant. Si le champ est revenu du vivant du père d'hier, le père est mort après le Yovel, donc il est évident que les terrains seront partagés et que le Bechor prendra double part. Mais dans le cas où le père a vendu à la 10e année du Yovel et le père est décédé à la 30e année du Yovel, donc il reste encore 20 ans. 20 ans plus tard, le terrain revient. Est-ce que le Bechor va prendre aussi une double part de ce terrain? Puisque nous avons une halakha que le Bechor ne prend pas de l'argent que Beraou, c'est-à-dire ce qui va venir par la suite, ce qu'on va récupérer, ce qu'on va avoir. C'est seulement ce qui est Mourzak, ce qui se trouve aujourd'hui dans les mains du Père. Eh bien, la Braïta nous dit que le Bechor prendra double part du terrain qui devra revenir dans X temps au moment du Yovel. Pourquoi? Parce qu'on considère que ce terrain est déjà maintenant dans la possession du Bechor. Mais ça, c'est seulement si on explique que l'acheteur n'avait que Kinyan Perot et pas Kinyan Agouf. Mais si l'acheteur avait eu Kinyan Perot et Kinyan Agouf, donc le terrain n'était pas dans les mains du père. Toute cette période, il était dans les mains de l'acheteur. Donc lorsqu'ensuite, plus tard, il reviendra aux héritiers, c'est quelque chose qui est raouille et le Bechor ne devrait pas recevoir une double part. Amar Abaye, Abaye enseigne et dit, Naktina, nous avons appris de nos maîtres, Baal Benirse Ishto. Le mari, dans les biens de sa femme, s'il veut discuter avec tout baldin, c'est-à-dire si un homme veut prendre le bien, le mari dit « mais ce bien ne t'appartient pas, pourquoi tu veux le prendre ? Tu as un shtar, montre, il est peut-être mezouyaf. » Si le mari veut discuter au baldin, il a besoin d'une archa'a, c'est comme une procuration que la femme lui permet d'aller discuter des biens appartenant à la femme, des nirsé milouk, dont le mari peut manger les fruits. Sinon, le baldin peut dire au mari « mais je ne te connais pas, le terrain ne t'appartient pas. » Si tu as Si quelqu'un a quoi que ce soit à me dire, c'est le propriétaire qui a le gouf, donc la femme et pas le mari. Mais nous dit Rav Abaye, velo amran et l'adol nachita pere. C'est seulement si l'on nachita pere, c'est-à-dire si la discussion au bedin n'est pas concernant les fruits que le mari peut manger. Avan nachita pere, mais si c'est, il est descendu sur les fruits, il y a une question donc au bedin concernant les fruits, migo de mishtaedina apere mishtaedina goufé, puisqu'il peut discuter sur les fruits, il pourra discuter aussi sur le terrain lui-même. Hadran alach hasholeach, nous terminons le quatrième pérec, et la Gemara continue, Hanizakin shamin lahem beidit. Commençons le cinquième pérec, Hanizakim, lorsqu'il y a un dommage, Rouven a causé un dommage à Shimon, ou la bête de Rouven a causé un dommage à Shimon. Tout dommage doit être payé, shamin lahem doit évaluer beidit du meilleur du terrain, du meilleur des biens de celui qui a endommagé. Que signifie du meilleur? Il peut y avoir plusieurs qualités de terrain. Un terrain qui est plus fertile qu'un autre, mieux placé, meilleure qualité. C'est un terrain qu'on va appeler idit. Nous avons un terrain qui est moyen, c'est benonit. Et celui qui est vraiment dire, mauvais, il y a beaucoup de roches, etc., c'est ziborite. Il est évident que le prix du idit au mètre carré n'est pas le même que le prix de ziborite. On peut avoir beaucoup plus de ziborite pour le même prix qu'un morceau de terrain fertile de bonne qualité de Hidit. Donc pour les Nizikim, comme nous allons le voir, lorsqu'on évalue, dire le Mazik doit payer du meilleur de ses terres. Même s'il paierait un petit morceau de terrain en fonction du dommage, mais il doit donner du meilleur. Le Baal Chor, c'est-à-dire lorsque Rouven a prêté de l'argent à Shimon et Rouven vient se faire payer chez Shimon, Réhouven doit prendre Bebenonit, c'est-à-dire le terrain moyen. Ktoba Tisha, si une femme vient réclamer sa Ktoba, Beziborit, c'est le terrain qui est le moins bon. Rabbi Meir Omer, Aftoba Tisha Benonit, Rabbi Meir pense que même la Ktoba de la femme, c'est Bebenonit. La Mishnah nous dit, Nifraim et Nechassim Meshubadim, comme Shesh Nechassim Benechori, nous connaissons tous le principe Nechassim Meshubadim, c'est-à-dire, prenons le cas du Baal Chor, c'est le plus simple, Réhouven prête de l'argent à Shimon. Shimon a hypothéqué le terrain qu'il avait. Si ensuite Réhouven vient réclamer de l'argent à Shimon et Shimon n'a pas de quoi payer, Réhouven prendra le terrain. Si Shimon a entre-temps vendu le terrain, Réhouven pourra aller chez les acheteurs et leur dire « Vous avez acheté un terrain qui est hypothéqué, c'est le principe donc du Shibud, vous me rendez le terrain, à vous de vous débrouiller avec Shimon. » Dans le cas où il y a chez Shimon des terrains Meshubadim, c'est-à-dire qui ont été hypothéqués et qui ont été vendus, et il reste chez Shimon encore des terrains libres, même s'ils ne sont pas de la meilleure, de la même qualité. C'est-à-dire là, il devait prendre Benonit. Le Benonit a été vendu, mais il reste un terrain ziborite. Lorsque Rouven vient réclamer son argent, Shimon dit j'ai pas d'argent, tu as qu'à prendre un terrain. Quel terrain va prendre Rouven? Est-ce que c'est le terrain Benonit qui a été vendu, donc il pourra arracher des acheteurs? Ou bien c'est le terrain qui reste puisqu'il est libre, autant prendre celui-là. Eh bien la Mishnah nous dit En Ephraim Nechassim Meshubadim, on ne prend pas des terrains Meshubadim qui ont été hypothéqués et vendus. Même comme Shesh Nechassim Nechrim, s'il y a encore des terrains libres, Afilu En Ziborit, même si ce n'est pas la qualité qu'il devait prendre, il doit prendre ce qu'il a, même ses Ziborit. En Ephraim Nechassim Yotom Minam Ziborit, lorsqu'on prend des biens des orphelins, c'est toujours Minam Ziborit, des terrains les moins bons. En Motsim Nechilat Perot, on ne sort de l'argent pour achilat perot, pour rembourser ce qui a été mangé des fruits, ou l'ishvar karkaot, ou ce que le terrain a été, meshubar, a été meilleur. C'est-à-dire, nous explique Rashi, Réhouven a volé un terrain. Et il l'a vendu à Shimon. Shimon pensait que le terrain appartenait à Réhouven, qu'il avait été vendu en bonne et due forme. Donc Shimon va s'investir, va semer, et le terrain a donné des fruits. Le vrai propriétaire du terrain se rend chez Shimon et dit « Mais ce terrain, il est à moi, on me l'a volé. » Donc le vrai propriétaire prend le terrain des mains de Shimon avec les fruits. Il lui dit « C'est mon terrain, c'est vrai que tu as fait pousser des fruits, tant mieux, mais je ne te payerai pas le prix du terrain des fruits. » Shimon a acheté un terrain à 10 000 grâce aux fruits qu'il a plantés, donc c'est 11 000, il ne payera pas 11 000. Il lui dit, je te donne juste les frais, combien tu as dû investir dans ce terrain pour qu'il y ait des fruits. Mais ensuite, l'acheteur Shimon qui a acheté de Rouven va retourner chez Rouven et va lui dire, tu m'as vendu un terrain volé, rends-moi le prix du terrain. Je me suis investi, j'avais des fruits, tu vas aussi me rembourser ces fruits-là. Et donc là, il va se retourner chez Réhouven. Eh bien, pour prendre Achilat Perot, c'est-à-dire les fruits, il ne les prendra que des biens bénéchorim et pas des biens hypothéqués. Nous verrons pourquoi dans la Gemara. De même, le Shvar Karkaot, c'est-à-dire si Shimon a investi à planter des arbres ou à arranger, a mis de l'engrais, le terrain a pris de la valeur, tout ceci sera récupéré chez Réhouven, mais des biens Bene Chorin. On ne prend pas la Chilatol de Shevar Kagot des biens Meshubadim. De même, les Mazon Aïcha. Pour nourrir la femme, le mari est mort, il a laissé des terrains. Il y a des terrains qui sont hypothéqués, qui ont été vendus par exemple. Mais la femme dans sa Ketouba avait un tnaï que le mari doit la nourrir. Une fois veuve, elle sera nourrie par le mari. Donc si on veut vendre un terrain pour nourrir la femme, ou va banot pour donner aux filles, ça on ne peut pas prendre les chassé mishubadim des biens qui avaient été soumis pour la Ketouba. On prendra des biens qui sont benéchorim. Mipne tikkun olam, tout ceci, mipne tikkun olam, nous verrons dans la Gemara que signifie mipne tikkun olam. Vermotse metzia est celui qui trouve un objet dans la rue, il trouve un portefeuille. Et dans le portefeuille, il y a un nom, il dit très bien, je vais accomplir la mitzvah de Hashavat Aveda. Il vient rendre le portefeuille sans propriété pour lui interdire. Il manque 500. Il dit, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Il dit, jure que tu n'as pas pris. Bien. Vermotse metzia, celui qui a trouvé un objet, une metzia, loishava, il ne jurera pas, on ne le fera pas jurer, mais pnetikun olam, parce que sinon demain il dira, comme nous verrons dans la Gemara, si je risque de jurer, je ne ramasse rien, je ne rends rien à son propriétaire. Donc tout d'abord, la Gemara va se pencher sur le premier dîme. Nous avons vu qu'un nezikin, shamilem beidit, lorsqu'un homme a causé un dommage, il doit rembourser beidit du meilleur. La Gemara demande, tout ceci, c'est mipnetikun olam, mais de oraitaï, c'est minatora dirtiv, c'est marqué metav sede ou metav kamoui, shalem ipeira, du meilleur de son champ, du meilleur de sa vigne. Amar Abaye, Abaye répond l'otzricha de Rabbi Ishmael. Abaye nous explique que la Mishnah, que Pnetikun Olam, c'est Beidit, c'est d'après Rabbi Ishmael. Parce que d'après Rabbi Ishmael, comme nous allons le voir, il a dit Dama Medoraita Bedenizak Shaiminan. On va évaluer en fonction du meilleur terrain, non pas du Mazik, mais du Nizak. Kamashmanan Pnetikun Olam Shaiminan Bedemazik. C'est-à-dire, on peut imaginer que sur le Idit, Ziborit et Benonit, c'est relatif à chaque personne. Le terrain du Mazik. Prenons le cas, Réhouven a endommagé Shimon. Donc Réhouven doit payer. Réhouven est le Mazik. Le champ du Mazik est de tellement très bonne qualité. Il a du Hidit, il a du Benonit, il a du Ziborit. Shimon, l'endommagé, a aussi des terrains. Mais le meilleur de chez Shimon correspond au moins bon de Réhouven. Donc lorsque on va devoir rembourser le dégât. Réhouven doit rembourser. Il va rembourser du meilleur des terres de qui ? En fonction des terres de Shimon. Et donc, pour Réhouven, il gagne, c'est du Ziborit. Ou bien en fonction du meilleur de chez Réhouven. Donc là, Rabbi Ishmael lui dit que Minatora, c'est en fonction des terres de Shimon. Même si pour Réhouven, c'est Ziborit, eh bien, Réhouven donnera le moins bon. Puisque pour toi, Shimon, qui a été endommagé, c'est le meilleur. Donc, Kamashmaim, Netikuna Olam, Shaminon Bedemazik. Netikuna Olam vient dire non. On donnera du mazik, du meilleur de ce que celui qui est endommagé a chez lui. Donc, Maï Rabbi Ishmael, quelle est cette machloquette entre Rabbi Ishmael, essentiellement Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva? Donc, nous allons commencer. Les Tanéas, c'est marqué dans une braïta. Ça, c'est toute une sougia dans Masechet Baba Kama. Metav Sade ou Metav Karmo Yishalem, du meilleur de son champ, du meilleur de sa vigne, il payera. Metav Sade ou Shel Nizak. Ou Metav Karmo Shel Nizak de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael pense que c'est le meilleur du champ du Nizak, celui qui a été endommagé, ou de la meilleure vigne du Nizak qui a été endommagé. Donc là, comme nous allons le voir dans la Gemara pensait comprendre ici Rabbi Ishmael de cette manière, que si, par exemple, la bête de Réhouven a été mangée, une rangée de fruits, dans le terrain de Shimon, eh bien, on va évaluer chez Shimon la meilleure rangée de fruits, et on va dire, puisque la meilleure rangée de fruits vaut tant, donc ce que le taureau a mangé ici, c'est comme s'il avait mangé la meilleure rangée, il doit payer tant. Et la Gemara posera la question, mais peut-être qu'il n'a pas mangé la meilleure des rangées. Parce que Rabbi Ishmael dit du meilleur du Nizak. Rabbi Akiva Omer Lobak, Tov Lagabod Nizak Minaïdit. Rabbi Akiva lui dit, le pasouk en vérité ne vient nous dire que pour un Nézek, pour un dégât, on prend du meilleur. Nous allons voir quelle leur marloquette. Ve kavachomer l'Egdesh, a plus forte raison pour Egdesh. C'est-à-dire, nous verrons aussi dans la Gemara que signifie kavachomer l'Egdesh. Alors demande la Gemara telle que nous avons compris Rabbi Ishmael. C'est-à-dire, il y a plusieurs rangées qu'on va appeler des harugot. Le taureau est venu manger une rangée, et bien on doit calculer le prix de la meilleure rangée. Alors demande la Gemara, mais Rabbi Ishmael, achal shmena, mais shalem shmena. Si la bête a mangé une rangée qui est bien, bien bonne, bien mûre, bien grasse, qui vaut cher. Donc il va payer Shemena. Mais Achal Krusha, s'il a mangé une rangée qui n'avait pas de beaux fruits, Meshalel Shemena, il va donner le même prix qu'une rangée qui a de bons fruits. C'est pas logique. Amar Avidi Baravin, Rabbi David, non, il faut comprendre Rabbi Shmuel ainsi. Rabbi Maskinan, Kigon Shachla, Aruga Ben Arugot. En vérité, on parle ici où la bête a mangé une rangée parmi d'autres, mais on ne sait pas laquelle. Velo Yadnan Krusha, Achal Shemena, si c'est Kachouche, faible, maigre, ou si c'est Shemen, c'est-à-dire de bons fruits. Et là, Meshalem les Mimetav, on doit payer du meilleur, comme c'était la meilleure rangée. Et là encore, la Gemara demande à Marava, mais c'est pas logique, puisque Ilou Yadinan des Krusha, si on savait que c'était la rangée la moins fertile, la moins bonne, les fruits étaient les moins beaux. On aurait dû payer quoi? Un Meshalem Krusha, on aurait payé quelque chose de carouche, de moyen, de quelque chose de pas trop cher. Ashtad Eloi Adina, maintenant que tu ne sais pas, tu vas dire Meshalem Shemena, il paye le mieux. On a une Reila Motsimicha Vorolavaraya. Et là, donc nous dit Ravacha Bar Yaakov, en vérité c'est ainsi qu'il faut comprendre. Achab Ema Eskinan, donc l'Agma va nous expliquer la Machloket et nous arrêtons là. C'est en vérité, d'après Rabbi Shmuel, nous avons mal compris. Il ne s'agit pas de faire payer en fonction de la meilleure rangée, mais simplement en fonction de quel terrain. Ici, on parle que le meilleur du Nizak est comme la zibourée du Mazik. Donc, nous avons expliqué, Réhouven a endommagé Shimon, le meilleur terrain chez Shimon correspond au moins bon terrain chez Réhouven. Donc, est-ce qu'on calcule par rapport à Shimon ou par rapport à Réhouven? Donc, Rabbi Shmuel, Savar, Bedenizak, Shaiminan, on calcule par rapport à Shimon. Donc, Réhouven doit payer du Zibori, de ce qu'il a chez lui, du le moins bon, le moins fertile, puisque pour l'autre, ça correspond au meilleur. Et Rabbi Akiva dit non, Bedemazik, Shaiminan, on tient compte de ce que Réhouven a chez lui, donc il donnera du meilleur de sa terre. Et donc, c'est vrai que d'après Rabbi Shmuel, Minatora, le Metav signifie le meilleur du Nizak, et donc Mipne. On va donner le meilleur du Mazik. Nous nous arrêtons là, on reprendra la raison de la marquette entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, mais la suite de la Gemara. Poursuivons aujourd'hui Merot Alakha Daf Memchet concernant les endroits où on se prosterne pendant la Tfila. Voici des brachot où on se prosterne dans la bracha de Avot au début et à la fin, donc lorsqu'on dit Baruch Ata Hashem, et à la fin Baruch Ata Hashem Magen Avram, à la bracha de Modim, Modim Anachnu Lach, et à la clôture Baruch Ata Hashem, Atov, Shimru, Chana, Ilodot, c'est là où on se prosterne. La raison de ces quatre endroits, puisque c'est l'habitude de ceux qui viennent demander au roi leurs besoins, leurs demandes, de se prosterner une fois ou deux lorsqu'ils louent le roi avant de demander ce qu'ils désirent, et ensuite lorsqu'ils terminent, ils se prosternent encore une fois ou deux. Donc les Chachamim ont institué de cette manière le Derech HaTfila, puisque la malchoute du ciel, c'est comme la malchoute, comme la royauté terrestre. Les Chachamim nous ont dit aussi qu'un homme qui ne se prosterne pas à Modim, 7 ans après son enterrement, sa colonne vertébrale deviendra un serpent et il n'aura pas le mérite de se relever à la résurrection des morts. Celui qui veut se prosterner dans les autres brachot du Shmoneh Esrei, on lui apprendra de ne pas faire ainsi. Pour ne pas déraciner, annuler la takana des Chachamim, pour ne pas qu'on dise que on peut, tout à chacun peut se prosterner là où il veut. Et donc on va ainsi annuler la takana des Chachamim de se prosterner à ces quatre endroits. De plus, on pourrait aussi se faire passer pour un orgueilleux, se montrer qu'on est un homme particulièrement cachère, où on se prosterne plus de fois que le reste de la communauté. Donc c'est une conduite à éviter.